Le journal de George Fox 1648-1652 Début du ministère, page 2. Après cela, les juges de paix me laissèrent la permission de marcher 1 mile. Je perçus leur dessein et dis au geôlier que, s'il voulait me marquer jusqu'où faisait 1 mile, je pourrais parfois prendre la liberté de le parcourir, car je sentais qu'ils espéraient que je m'en irais. Et le geôlier avoua ensuite qu'il l'avait fait avec cette intention, afin que je parte et de les soulager de leur fléau, mais je lui dis que je n'étais pas de cet esprit. Ce geôlier avait une sœur, une jeune femme maladive. Elle monta dans ma chambre pour me rendre visite, et après être restée quelque temps, et que je lui ai dit les paroles de vérité, elle redescendit et leur dit « Nous étions un peuple innocent, et ne faisions de mal à personne, mais faisions du bien à tous, même à ceux qui nous haïssaient », et elle leur demanda d'être plein de douceur à mon égard. Comme, du fait de ma détention, je n'avais pas l'occasion de voyager pour déclarer et répandre la vérité à travers les contrées, il me vint à l'esprit d'écrire un écrit et de l'envoyer, afin qu'il soit diffusé parmi les amis et d'autres personnes au cœur sensible, pour l'ouverture de leur intelligence dans la voie de la vérité, et pour les diriger vers le véritable maître en eux-mêmes. C'était de cette manière, le Seigneur montre à l'homme ses pensées et découvre tout ce qui est secret en l'homme, et l'homme peut être amené à voir ses mauvaises pensées, son esprit vagabond et ses vaines imaginations, et peut s'efforcer de les réprimer et de garder son esprit en lui, mais il ne peut les vaincre, ni tenir son esprit au-dedans vers le Seigneur. Dans cet état et cette condition, soumets-toi à l'esprit du Seigneur qui les montre, et cela amènera à attendre le Seigneur, et celui qui les a découvertes les détruira. Tenez donc ferme, dans la foi du Seigneur Jésus-Christ qui est l'auteur de la vraie foi, et ayez les yeux sur lui, car il découvrira la racine des convoitises, des mauvaises pensées et des vaines imaginations, et comment elles sont engendrées, conçues et nourries, puis comment elles sont produites, et comment chaque membre mauvais agit. Il découvrira chaque principe selon sa propre nature et sa propre racine. Ayez donc les yeux sur la foi du Christ et sur l'onction qui est en vous pour en être instruit. Elle découvrira toutes les opérations en vous. Comme il vous enseigne, ainsi obéissez et repentez-vous, sinon vous ne croîtrez ni dans la foi, ni dans la vie du Christ où l'amour de Dieu est reçu. Or l'amour engendre l'amour, sa propre nature et son image. Et quand la miséricorde et la vérité se rencontrent, quelle joie, la miséricorde triomphe du jugement, et l'amour et la miséricorde supportent avec patience le jugement du monde. Ce qui ne peut supporter le jugement du monde n'est pas l'amour de Dieu, car l'amour supporte tout, et est au-dessus du jugement du monde, car le jugement du monde n'est que folie. Bien que ce soit le jugement et la pratique du monde de jeter sur les saints toute la souillure qui est parmi eux, leur jugement est pourtant faux. Les vierges chastes suivent le Christ, l'agneau qui ôte les péchés du monde, mais ceux qui sont de cet esprit qui n'est pas chaste ne suivront pas le Christ, l'agneau, dans ses pas, mais lui désobéissent dans ses commandements. L'esprit charnel s'attache à la chair, parle charnellement, et sa connaissance est charnelle, non spirituelle, elle a le goût de la mort, non de l'esprit de vie. Certains hommes ont la nature du porc qui se vautre dans la boue. Certains ont la nature des chiens pour mordre les brebis et se mordre les uns les autres. Certains ont la nature des lions pour déchirer, dévorer et détruire. Certains la nature des loups pour déchirer et dévorer les agneaux et les brebis du Christ, et certains la nature du serpent, ce vieil adversaire, pour piquer, envenimer et empoisonner. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende et qu'il apprenne ces choses en lui-même. Certains hommes ont les natures d'autres bêtes et créatures, ne s'occupant de rien d'autre que des choses terrestres et visibles, et se nourrissant sans la crainte de Dieu. Certains ont la nature du cheval pour caracoler et se vanter de leur force et pour être prompt à faire le mal. Certains ont la nature de grands chênes robustes pour prospérer et s'étendre en sagesse et en force, étant fort dans le mal, ce qui doit périr et venir au feu. Ainsi le mal n'est qu'un en tout, mais il agit de multiples façons, et à tout ce à quoi la nature d'un homme ou d'une femme s'attache au dehors, le malin s'adaptera et flattera sa nature et son appétit pour tenir son esprit dans ses inventions et dans les créatures, loin du Créateur. Ne laissez donc pas l'esprit s'éloigner de Dieu, car s'il le fait, il sera souillé, empoisonné et corrompu. Si l'esprit sort du Seigneur, il est difficile de le faire rentrer, prenez donc garde à l'ennemi et demeurez dans la foi du Christ. Portez donc votre attention sur ce qui est éternel et invisible, et sur celui qui est le Créateur et le moteur de toutes choses, car les choses qui sont faites ne sont pas faites de choses qui apparaissent, car le visible couvre en vous la vision de l'invisible. Mais lorsque le Seigneur, qui est invisible, vous ouvre par sa puissance et son esprit invisible, et abaisse en vous l'esprit charnel, alors les choses invisibles et immortelles sont mises en lumière en vous. Ô vous donc qui connaissez la lumière, marchez dans la lumière, car il y a des enfants des ténèbres qui parleront de la lumière et de la vérité, et pourtant ne marcheront pas en elle, Mais les enfants de la lumière aiment la lumière et marchent dans la lumière. Les enfants des ténèbres, eux, marchent dans les ténèbres et haïssent la lumière. En eux, les convoitises terrestres et l'esprit charnel étouffent la semence de la foi, ce qui opprime la semence et fait régner la mort sur eux-mêmes. Oh, ayez donc en vue l'esprit pur du Dieu éternel, qui vous apprendra à user des créatures à leur juste place et qui juge le mal. À toi, ô Dieu, soit toute gloire et tout honneur, toi qui es Seigneur de tout le visible et l'invisible. À toi soit toute louange, toi qui fais remonter des profondeurs vers toi-même, ô Dieu puissant, toi qui es digne de toute gloire, car le Seigneur qui a tout créé, et donne vie et force à tous, est au-dessus de tous et miséricordieux envers tous. Ainsi toi, qui as tout fait et qui es au-dessus de tout, à toi soit toute gloire. En toi sont ma force, mon rafraîchissement et ma vie, ma joie et mon allégresse, mon exultation et ma fierté pour toujours, vivre et marcher dans l'esprit de Dieu est joie, paix et vie, mais l'esprit qui se porte vers les créatures, ou vers quelque chose de visible, loin du Seigneur, cela apporte la mort. Quand l'esprit s'enfonce dans la chair et dans la mort, l'accusateur entre au-dedans, et la loi du péché et de la mort entre dans la chair. Alors la vie souffre sous la loi du péché et de la mort, et alors viennent l'étroitesse et les défaillances. Car alors le bien est enfermé, et la justice propre est placée au sommet. Alors l'homme agit selon la loi extérieure, et il ne peut se justifier par la loi, mais il est condamné par la lumière. Car il ne peut sortir de cet état qu'en demeurant dans la lumière, en se reposant dans la miséricorde de Dieu, et en croyant en celui de qui procède toute miséricorde, car il y a paix à se reposer dans le Seigneur Jésus. C'est le chemin étroit qui mène à lui, la vie, mais peu y demeureront. Demeurez donc, dans l'innocence et soyez obéissants à la foi en lui. Gardez-vous de vous conformer au monde et de raisonner avec la chair et le sang, car cela engendre la désobéissance, et alors s'élèvent imagination et questionnement, pour détourner de l'obéissance à la vérité du Christ. Mais l'obéissance de la foi détruit imagination, questionnement et raisonnement, avec toutes les tentations dans la chair, les coups, les regards au dehors, et le fait de ressasser les choses passées. Mais si l'on ne demeure pas dans la vie et la lumière, si l'on ne croise pas la volonté corrompue par la puissance de Dieu, la nature mauvaise grandit en l'homme, alors des fardeaux viendront, et l'homme sera souillé de cette nature. Mais la montagne d'Ésaü sera dévastée et deviendra un désert, où gisent les dragons, tandis que Jacob, la seconde naissance, sera féconde et se lèvera. Car Ésaü est haï, et ne doit pas être seigneur, mais Jacob, la seconde naissance, qui est parfaite et simple, sera seigneur, car il est aimé de Dieu. George Fox j'écrivit aussi un autre écrit, à peu près au même moment, et l'envoyai parmi les personnes convaincues, comme suit, « Le Seigneur est roi sur toute la terre, que tous les peuples donc louent et glorifient votre roi dans la vraie obéissance, dans la droiture et dans la beauté de la sainteté. » Considérez, dans la vraie obéissance, le Seigneur est connu et une intelligence venant de lui est reçue. Remarquez et considérez en silence, dans l'humilité d'esprit, et vous entendrez le Seigneur vous parler dans votre esprit. Sa voix est douce et agréable, ses brebis entendent sa voix et n'écouteront pas une autre. Quand elles entendent sa voix, elles se réjouissent et obéissent, elles chantent aussi de joie. Oh, leurs cœurs sont remplis d'un triomphe éternel, elles chantent et louent le Dieu éternel dans Sion. Leur joie, l'homme ne la leur ôtera jamais. Gloire au Seigneur Dieu pour toujours. Mais beaucoup, qui avaient été convaincus de la vérité, se détournèrent à cause de la persécution qui s'éleva, sur quoi j'écrivis quelques lignes pour le réconfort et l'encouragement des fidèles, ainsi. Venez, vous les bénis du Seigneur, et réjouissez-vous ensemble, demeurez dans l'unité et l'unité d'esprit. Triomphez au-dessus du monde, réjouissez-vous dans le Seigneur régnant au-dessus du monde, et au-dessus de toute chose qui détourne du Seigneur, afin que dans la clarté, la justice, la pureté et la joie, vous soyez préservés pour le Seigneur. Oh, écoutez. Oh, prêtez l'oreille à l'appel du Seigneur, sortez du monde et restez en dehors pour toujours, venez, chantez ensemble, vous les justes, le cantique du Seigneur, le cantique de l'agneau, que nul ne peut apprendre, sinon ceux qui sont rachetés de la terre et du monde. Pendant que j'étais dans la maison de correction, mes proches vinrent me voir, et troublés par mon emprisonnement, ils allèrent trouver les juges de paix qui m'avaient fait jeter en prison et demandèrent que je rentre chez moi avec eux, offrant de se porter garant pour la confiscation de 100 livres, et d'autres de dobi pour 50 livres chacun, garantissant que je ne reviendrai pas là-bas pour m'élever contre les prêtres. Ainsi je fus amené devant les juges de paix, mais comme je ne voulais pas consentir à ce que qui que ce soit se porte garant pour moi, car j'étais innocent de toute mauvaise conduite et je leur avais dit la parole de vie et de vérité, le juge Bennet se leva dans une fureur, et tandis que je m'agenouillais pour prier le Seigneur de lui pardonner, il se rua sur moi et me frappa des deux mains, criant « Emmenez-le, geôlier, emmenez-le, geôlier ». Je fus donc renvoyé en prison, et on m'y garda jusqu'à l'expiration de mes 6 mois de détention. Mais j'avais désormais la liberté de marcher 1 mille seul, et j'en usais selon que je sentais la liberté du Seigneur de le faire. Parfois j'allais au marché et dans les rues, et j'avertissais le peuple de se repentir de sa méchanceté, puis je retournais en prison. Et comme il y avait en prison des personnes de diverses religions, je leur rendais parfois visite à leurs réunions les premiers jours. Après avoir été amené devant les juges de paix, et qu'ils eurent exigé des cautions pour ma bonne conduite, ce à quoi je ne pouvais consentir qu'on les donne, pour ternir mon innocence, il me vint à l'esprit de leur écrire de nouveau, ce que je fis de la manière suivante. Amis, voyez ce qui est en vous qui emprisonne, voyez qui est votre chef, voyez si quelque chose ne vous accuse pas, considérez, vous devez être amené au jugement, pensez à Lazare et à l'homme riche, l'un festoyait somptueusement chaque jour, l'autre était un mendiant, maintenant vous avez du temps, estimez le temps que vous l'avez, voulez-vous que je sois lié à ma bonne conduite? Je suis lié à ma bonne conduite, et je crie à la bonne conduite de tous les gens, pour qu'ils se détournent des vanités, des plaisirs, de l'oppression et des tromperies de ce monde. Et il viendra un temps où vous le saurez. Prenez donc garde aux plaisirs, aux tromperies et à l'orgueil, et ne regardez pas l'homme, mais le Seigneur, car tournez-vous vers moi, vous tous, extrémités de la terre, et vous serez sauvés, dit le Seigneur. Quelque temps après, je leur écrivis encore, « Amis, voudriez-vous que je sois lié à ma bonne conduite concernant l'ivrognerie, le blasphème, les crêles, l'adultère et autres choses semblables ?» Le Seigneur m'a racheté de toutes ces choses, et l'amour de Dieu m'a amené à haïr tout mal, béni soit son nom. Les ivrognes, les bagarreurs et les jureurs ont leur liberté sans caution, et vous faites peser votre loi sur moi, que ni vous ni aucun autre ne pouvez justement accuser de ces choses, loué soit le Seigneur. Je ne puis regarder aucun homme pour ma liberté, mais le Seigneur seul, qui tient le cœur de tous les hommes dans sa main. Après quelque temps, ne trouvant pas mon esprit dégagé à leur égard, je leur écrivis encore, « Amis, si vous aviez su qui m'a envoyé vers vous, vous m'auriez reçu, car le Seigneur m'a envoyé vers vous pour vous avertir des malheurs qui viennent sur vous, et pour vous dire de regarder au Seigneur et non à l'homme. Mais quand je vous ai dit mon expérience, ce que le Seigneur avait fait pour moi, alors vos cœurs se sont endurcis, et vous m'avez envoyé en prison, où vous m'avez gardé de nombreuses semaines. Si l'amour de Dieu avait brisé vos cœurs, vous verriez alors ce que vous avez fait. Vous ne m'auriez pas emprisonné si mon Père ne vous l'avait permis, et par sa puissance je serai délivré, car il ouvre et il ferme, à lui soit toute gloire. En quoi me suis-je mal comporté pour que quelqu'un se porte garant pour moi? Les paroles de tous les hommes ne me feront aucun bien, ni leur caution non plus, pour garder mon cœur, si je n'ai pas au-dedans un guide qui me garde dans la vie droite envers Dieu. Mais je crois au Seigneur, que par sa force et sa puissance je serai préservé de l'impiété et des convoitises du monde. L'Écriture dit, « Recevez les étrangers, mais vous, vous emprisonnez cela même. Puisque vous êtes en autorité, prenez garde à l'oppression, au serment, à l'injustice et au présent aux récompenses, car Dieu a en horreur toutes ces choses. Mais aimez la miséricorde et le jugement véritable, et la justice, car le Seigneur y prend plaisir. Je n'écris pas avec haine contre vous, mais pour garder ma conscience, prenez garde à la manière dont vous employez votre temps. Je fus aussi poussé à écrire de nouveau au prêtre de Derby. Ce que je fis de la manière suivante, amis, vous vous prétendez ministre de Jésus-Christ en parole, mais vous montrez par vos fruits ce qu'est votre ministère. Chaque arbre produit son fruit. Le ministère de Jésus-Christ est dans la miséricorde et l'amour pour délier ceux qui sont liés, faire sortir de la servitude et laisser libres ceux qui sont captifs. Maintenant, amis, où est votre exemple? Si les Écritures sont votre règle, pour emprisonner pour la religion, avez-vous un commandement du Christ pour cela? Si ce que vous professez était en vous, vous marcheriez sur les traces de ceux qui ont parlé les Écritures. Mais n'est pas juif celui qu'il est au dehors, dont la louange vient des hommes, mais est juif celui qu'il est au dedans, dont la louange vient de Dieu. Or si vous bâtissez en parole sur les prophètes et les apôtres, et que vous pervertissez leur vie, souvenez-vous des malheurs que Jésus-Christ a prononcés contre de tels hommes. Ceux qui parlaient les paroles des prophètes, mais niaient le Christ, professaient un Christ à venir, mais s'ils l'avaient connu, ils ne l'auraient pas crucifié. Les saints, que l'amour de Dieu a transformés, furent amenés par cela à marcher dans l'amour et la miséricorde, car celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Mais là où règne l'envie, l'orgueil et la haine, c'est la nature du monde qui règne, non la nature de Jésus-Christ. Je n'écris pas avec haine contre vous, mais afin que vous vous pesiez vous-même et que vous voyiez comment vous passez votre temps. Ainsi ayant déchargé ma conscience envers les prêtres, il ne s'écoula pas longtemps avant qu'une préoccupation ne vienne sur moi d'écrire de nouveau au juge de paix, ce que je fis comme suit, je suis poussé à vous avertir de prendre garde à céder à vos propres volontés. Aimez la croix, ne contentez pas votre propre esprit dans la chair, mais estimez votre temps tant que vous l'avez, et conduisez votre vie dans l'obéissance à ce que vous savez déjà, dans l'obéissance à Dieu, Vous ne serez pas condamné pour ce que vous ne savez pas, mais seulement condamné pour ce que vous savez et choisissez de ne pas obéir. Réfléchissez avant qu'il ne soit trop tard, examinez-vous vous-même, voyez où vous en êtes et qui vous servez. Car si vous blasphémez Dieu et prenez son nom en vain, si vous jurez et mentez, si vous cédez à l'envie, à la haine, à l'avidité et à la cupidité, aux plaisirs et à la débauche, ou à tout autre vice, soyez assurés que vous servez le diable, mais si vous craignez le Seigneur et le servez, vous aurez en horreur toutes ces choses. Celui qui aime Dieu ne blasphémera pas son nom, mais là où il y a opposition à Dieu et service du diable, cette profession est triste et misérable. Oh, estimez votre temps, et n'aimez pas ce que Dieu interdit, mensonge, colère, malveillance, envie, haine, cupidité, convoitise, oppression, gloutonnerie, ivrognerie, fornication et toute injustice, Dieu les interdit. Considérez donc, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu avec de vaines paroles, la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété. Obéissez donc à ce qui vous convainc de tout mal, et vous dit que vous ne devez faire aucun mal, cela conduira à la repentance et vous gardera dans la crainte du Seigneur. Oh, regardez les miséricordes de Dieu, estimez-les, et ne les transformez pas en comportements sans frein. Oh, ayez les yeux sur le Seigneur et non sur les choses terrestres. Outre cela, j'écrivis ce qui suit au colonel Barton, qui était à la fois juge de paix et prédicateur, comme cela avait été limité auparavant. Ami, ne te drape pas et ne te couvre pas, il y a un Dieu qui connaît ton cœur et qui te découvrira, il voit ta voix. Malheur à celui qui se couvre, et non de mon esprit, dit le Seigneur. Agis-tu contrairement à la loi, puis l'oublies-tu. La miséricorde et le jugement véritable, tu les négliges, vois ce qui a été dit contre de tels. Mon Sauveur dit à cela, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité, j'avais faim et vous ne m'avez pas nourri, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Et quand ils dirent, quand avons-nous vu en prison et ne sommes pas venus vers toi, etc. Et il répondit, dans la mesure où vous avez manqué de visiter l'un de ces petits, vous avez manqué de me visiter. Ami, tu m'as emprisonné pour avoir rendu témoignage à la vie et à la puissance de la vérité, et pourtant tu te dis ministre du Christ. Mais si le Christ t'avait envoyé, tu libérerais des gens de prison, hors de la servitude, et tu recevrais les étrangers. Tu as vécu dans le luxe sur la terre, tu as vécu dans l'abondance et tu as engraissé ton cœur comme au jour du massacre. Tu as fait périr le juste. Oh, regarde où tu en es et comment tu as passé ton temps, oh, souviens-toi de toi-même et maintenant que tu as du temps, estime-le. Ne méprise pas la miséricorde gratuite de Dieu et ne dédaigne pas sa longue patience qui est un grand salut, mais prends garde à ce qui, en toi, te convainc et ne te laisserait ni jurer, ni mentir, ni prendre le nom de Dieu en vain. Tu sais que tu ne dois faire aucune de ces choses, tu as appris ce qui te condamnera, obéis donc à la lumière qui te convainc, abandonne tes péchés, regarde aux miséricordes de Dieu, et estime son amour de t'avoir épargné jusqu'à maintenant. Le Seigneur dit, « Tournez-vous vers moi, vous tous, extrémités de la terre, et soyez sauvés, et cessez de vous fier à l'homme dont le souffle est dans ses narines. » Ami, estime ton temps, et vois qui tu sers, car de qui tu es le serviteur, c'est à celui-là que tu obéis, soit au péché conduisant à la mort, soit à l'obéissance conduisant à la justice. Si tu sers Dieu et le crains, tu ne blasphémeras pas son nom, tu ne maudiras pas, tu ne jureras pas, tu ne prendras pas son nom en vain, tu ne suivras pas les plaisirs et la débauche, la fornication et l'ivrognerie, ni la colère, la malveillance, la vengeance ou la témérité ou la fougue, l'orgueil ou la gloutonnerie, la cupidité, l'oppression ou la convoitise, ni les plaisanteries sottes, ni les chansons vaines. Dieu interdit ces choses et toute injustice. Si tu professes Dieu et fais l'une de ces choses, tu le prends pour un manteau et tu sers le diable. Considère en toi-même et n'aime pas ce que Dieu est. Celui qui aime Dieu garde ses commandements. Le diable te dira qu'il est difficile de garder les commandements de Dieu, mais il est facile de garder les commandements du diable et de vivre dans toute injustice et impiété, en changeant la grâce de Dieu en débauche. Mais que l'homme injuste abandonne ses voies et qu'il revienne à moi, dit le Seigneur, et j'aurai miséricorde. Revenez, pourquoi mourriez-vous, dit le Seigneur. Hurlez, vous les grands, car les fléaux se déversent sur vous. Hurlez, vous les oppresseurs, car la rétribution et la vengeance viennent sur vous. Malheur à ceux qui, par convoitise, joignent une maison à une autre et rapprochent un champ d'un autre si près que le pauvre ne peut plus obtenir de terre, afin que vous habitiez seul sur la terre. Ces choses sont parvenues aux oreilles du Seigneur des armées. Malheur à celui qui, par convoitise, amasse des biens par des moyens mauvais dans sa maison, afin de placer son nid sur les hauteurs pour échapper à la puissance du mal. George Fox, alors que j'étais encore dans la maison de correction, un cavalier vint m'y trouver et dit que, tandis qu'il était assis dans l'église à écouter le prêtre, un trouble extrêmement grand était tombé sur lui, et la voix du Seigneur lui était venue, disant, « Ne sais-tu pas que mon serviteur est en prison ? Va vers lui pour être dirigé. » Je parlai donc à son état, et son intelligence fut ouverte. Je lui dis que ce qui lui montrait ses péchés et le troublait à cause de lui montrerait aussi son salut, car celui qui montre à l'homme son péché est le même qui l'ôte. Tandis que je lui parlais, la puissance du Seigneur l'ouvrit, de sorte qu'il commença à avoir une bonne intelligence de la vérité du Seigneur et à être sensible aux miséricordes de Dieu. Il parla hardiment dans ses quartiers parmi les soldats et à d'autres, au sujet de la vérité, car les Écritures lui étaient très largement ouvertes, au point qu'il dit « Son colonel est aussi aveugle que Nabuchodonosor, pour avoir jeté en prison le serviteur du Seigneur. » Là-dessus, son colonel conçut du ressentiment contre lui, et lors de la bataille de Wouste, l'année suivante, quand les deux armées campaient près l'une de l'autre, deux hommes sortirent de l'armée du roi et défièrent deux hommes de l'armée du Parlement de se battre contre eux, son colonel le choisit, lui et un autre, pour répondre au défi. Et quand, dans l'affrontement, son compagnon fut tué, il repoussa ses deux ennemis à portée de mousquet de la ville, sans tirer un seul coup de pistolet sur eux. Cela, à son retour, il me le raconta en personne. Mais quand le combat fut terminé, il vit la tromperie et l'hypocrisie des officiers, et, étant sensible à la manière merveilleuse dont le Seigneur l'avait préservé, et voyant aussi à quoi menait le fait de se battre, il déposa les armes. Le temps de ma détention à la maison de correction touchant de très près à sa fin, et de nombreux nouveaux soldats ayant été levés, les commissaires auraient voulu me faire capitaine sur eux, et les soldats criaient qu'ils ne voulaient personne d'autre que moi. Ainsi le gardien de la maison de correction reçut l'ordre de m'amener devant les commissaires et les soldats sur la place du marché. Là, ils m'offrirent cet avancement, comme ils l'appelaient, me demandant si je ne voulais pas prendre les armes pour le Commonwealth contre Charles Stuart. Je leur dis que je savais d'où provenaient toutes les guerres, à savoir des convoitises, selon la doctrine de Jacques, et que je vivais dans la vertu de cette vie et de cette puissance qui ôtait l'occasion de toutes les guerres. Pourtant ils me pressaient d'accepter leur offre et pensaient que je les complimentais. Mais je leur dis que j'étais entré dans l'alliance de paix qui existait avant les guerres et les querelles. Ils dirent qu'ils me l'offraient par amour et bonté, à cause de ma vertu, et ils dirent d'autres paroles flatteuses semblables. Mais je leur dis que, si tel était leur amour et leur bonté, je les piétinais sous mes pieds. Alors leur rage s'enflamma, et ils dirent « Emmenez-le, geôlier, et mettez-le au cachot parmi les vauriens et les criminels. » Je fus donc mis dans un endroit puant et plein de vermine, sans lit parmi 30 criminels, où l'on me garda près d'un demi-an. Pourtant, par moments, on me laissait marcher dans le jardin, croyant que je ne m'en irais pas. Quand on me mit dans la prison de Derby, les gens dirent que je n'en sortirais jamais, mais j'avais foi en Dieu que je serais délivré en son temps, car le Seigneur m'avait dit auparavant que je ne devais pas encore être retiré de cet endroit, y étant placé pour un service qu'il avait à me faire accomplir. Après qu'il fut rapporté au loin que j'étais dans la prison de Derby, mes proches vinrent encore me voir, et ils étaient très troublés que je sois en prison, car ils pensaient que c'était pour eux une grande honte que je sois en geôle. À cette époque, être emprisonné pour la religion était une chose étrange, et certains pensaient que j'étais fou parce que je défendais la pureté, la justice et la perfection. Parmi d'autres qui vinrent me voir et s'entretenir avec moi, il y avait une certaine personne de Nottingham, un soldat qui avait été baptiste comme je l'ai compris, et avec lui vinrent plusieurs autres. Dans la conversation, cet homme me dit « Votre foi repose sur un homme qui est mort à Jérusalem, et une telle chose n'a jamais existé. » Extrêmement affligé de l'entendre, je dis « Comment, le Christ n'a-t-il pas souffert hors des portes de Jérusalem, par les Juifs professants, les principaux prêtres et Pilate ? Il n'y a que le Christ eût jamais souffert là extérieurement. » Alors je lui demandai s'il n'y avait pas eu là extérieurement des principaux prêtres, des Juifs et Pilate. Comme il ne pouvait le nier, je lui dis que, tout aussi sûrement qu'il y avait là extérieurement un principal prêtre, des Juifs et Pilate, tout aussi sûrement le Christ fut persécuté par eux et souffrit là extérieurement sous eux. Pourtant, à partir des paroles de cet homme, un faux bruit se répandit à notre sujet, selon lequel les Quakers niaient le Christ qui souffrit et mourut à Jérusalem. Cela était entièrement faux, et la moindre pensée de cela n'entra jamais dans nos cœurs. Le même homme dit aussi qu'aucun des prophètes, ni des apôtres, ni des hommes saints de Dieu n'avait jamais souffert quoi que ce soit extérieurement, mais que toutes leurs souffrances étaient d'intérieur. Je lui citai de nombreux prophètes et apôtres, montrant comment et par qui ils avaient souffert. Ainsi la puissance du Seigneur fut amenée sur ses mauvaises imaginations et ses lubies. Un autre groupe vint aussi vers moi, qui prétendait être des éprouveurs d'esprit. Je leur demandai quel était le premier pas vers la paix, et par quels moyens un homme pouvait voir son salut. Ils se dressèrent aussitôt dans l'esprit léger et dirent que j'étais fou. Ainsi ils vinrent pour éprouver les esprits, eux qui ne se connaissaient pas eux-mêmes ni leur propre esprit. Durant ce temps de mon emprisonnement, je fus extrêmement exercé au sujet des procédures des juges et des magistrats dans leur cour de justice, et je fus poussé à écrire au juge au sujet de leur mise à mort d'hommes pour le vol de bétail, d'argent et de petites choses, et à leur montrer combien cela était contraire à la loi de Dieu jadis, car j'étais dans une grande souffrance en mon esprit à cause de cela, et sous le sentiment même de la mort, mais demeurant dans la volonté de Dieu, une respiration céleste s'éleva dans mon âme. Alors je vis le ciel ouvert, et je me réjouis, et je rendis gloire à Dieu. Deux hommes furent exécutés pour de petites choses, et je fus poussé à les encourager que leur souffrance était contraire à la loi de Dieu. Peu après la mort des deux hommes, j'eus une vision de leurs esprits tandis que je marchais, et je vis qu'ils étaient bien. Ainsi j'écrivis au juge de la manière suivante, « Je suis poussé à vous écrire, afin que vous preniez garde de mettre des hommes à mort pour avoir volé du bétail, ou de l'argent, etc. Car au temps biblique, les voleurs devaient faire restitution, et s'ils ne pouvaient faire restitution, ils devaient être vendus pour leur vol. Ayez en vue les lois de Dieu dans les Écritures, et l'Esprit qui les a données, quelle soit votre règle dans l'exécution du jugement, et faites miséricorde, afin de recevoir miséricorde de Dieu, le juge de tous. Prenez garde aux dons et aux récompenses, et à l'orgueil, car Dieu les interdit, et ils aveuglent les yeux des sages. Je n'écris pas pour donner liberté au péché, Dieu l'a interdit, mais afin que vous jugiez selon ses lois et que vous fassiez miséricorde, car il prend plaisir au jugement véritable et à la miséricorde. Je vous supplie, ayez ces choses en vue, et estimez votre temps, maintenant que vous l'avez, craignez Dieu et servez-le, car il est un feu consumant. Outre cela, j'écrivis une autre lettre au juge, en substance, « Je suis poussé à vous écrire, afin que vous rendiez une justice véritable à chacun, veillez à ce que nul ne soit opprimé ni lésé, et à ce qu'aucun serment ne soit imposé, car le pays gémit à cause des serments, des adultères, des sorcelleries, de l'ivrognerie et de la profanation. » Oh, considérez, vous qui êtes en autorité, soyez modérés et, dans l'humilité, considérez ces choses. Faites miséricorde à l'orphelin, aux veuves et aux pauvres. Prenez garde aux récompenses ou présents, car ils aveuglent les yeux des sages. Le Seigneur a en horreur toutes ces choses. Aimez la miséricorde et le jugement véritable, la justice et la droiture, car le Seigneur prend plaisir à de telles choses. Considérez ces choses à temps et prenez garde à la manière dont vous passez votre temps. Maintenant vous avez du temps, estimez-le, et faites miséricorde, afin de recevoir miséricorde du Seigneur, car il vient éprouver toutes choses et plaidera avec toute chair comme par le feu. De plus, je mis devant les juges combien il était nuisible que les prisonniers restent si longtemps en geôle, montrant comment ils apprenaient la méchanceté les uns des autres, en parlant de leurs mauvais actes, c'est pourquoi une justice prompte devait être rendue. Car j'étais un jeune homme sensible, et je demeurais dans la crainte de Dieu, et affligé d'entendre leur mauvais langage, j'étais souvent amené à les reprendre pour leurs paroles mauvaises et leur mauvaise conduite les uns envers les autres. Les gens s'étonnaient que je sois ainsi préservé et gardé, car ils ne purent jamais surprendre de ma part une parole ou un acte pour en faire quelque chose contre moi, tout le temps que je fus là, car la puissance infinie du Seigneur me soutint et me préserva tout ce temps, à lui soit louange et gloire pour toujours. Pendant que j'étais là, il y avait une jeune femme en prison pour avoir volé son maître. Lorsqu'elle devait être jugée pour sa vie, j'écrivis aux juges et aux jurés, leur montrant combien il était contraire à la loi de Dieu autrefois de mettre à mort des gens pour vol, et les incitant à faire miséricorde. Pourtant elle fut condamnée à mourir, et une tombe fut creusée pour elle, et au moment fixé, on l'amena à l'exécution. Alors j'écrivis quelques mots, avertissant tous de se garder de la cupidité ou de la convoitise, car cela éloigne de Dieu, et que tous devaient craindre le Seigneur, éviter les convoitises terrestres et estimer leur temps tant qu'ils l'ont, cela, je le donnai à lire au gibet. Et bien qu'on l'eût sur l'échelle, avec un linge noué sur le visage, prête à être lâchée, on ne la mit pourtant pas à mort, mais on la ramena en prison, où elle en vint ensuite à être convaincue de la vérité éternelle de Dieu. Il y avait aussi dans la prison, pendant que j'y étais, un méchant homme impie qu'on tenait pour un sorcier. Il menaçait de la façon dont il me parlerait et de ce qu'il ferait, mais il n'eut jamais la puissance d'ouvrir la bouche devant moi. Et comme le geôlier et lui s'étaient crêlés, il menaça de faire venir le diable et de faire tomber sa maison, ce qui effraya le geôlier. Je fus poussé par le Seigneur à aller, en sa puissance, le reprendre, et à lui dire, « Viens, voyons ce que tu peux faire, fais de ton pire. » Je lui dis, « Le diable est déjà assez haut levé en toi, mais la puissance de Dieu l'a enchaîné, et il se déroba loin de moi. » Le temps de la bataille de Worcester approchant, le juge Bennet envoya des constables pour me réquisitionner afin de devenir soldat, puisque je n'acceptais pas volontairement un commandement. Je leur dis que j'avais été détourné des guerres extérieures. Ils revinrent pour me donner l'argent de l'enrôlement, mais je n'en voulus point. Alors on me mena au sergent Hall, on me garda là quelque temps, puis on me redescendit. Ensuite les constables me remontèrent une seconde fois, et alors je fus amené devant les commissaires, qui dirent que je devais aller être soldat, mais je leur dis que j'étais mort à cela. Ils dirent que j'étais vivant. Je leur dis que là où sont l'envie et la haine, là est la confusion. Ils m'offrirent de l'argent de foi, mais je le refusai. Déçus, ils se mirent en colère et m'écrouèrent en détention stricte, sans caution ni garantie. Sur quoi je leur écrivis encore, adressant ma lettre au colonel Barton, prédicateur, et aux autres qui avaient pris part à ma détention. J'écrivis ainsi, « Vous qui êtes sans Christ et qui pourtant employez les paroles qu'il a dites, lui et ses saints, considérez, ni lui ni ses apôtres n'ont jamais emprisonné personne, mais mon Sauveur est miséricordieux même envers les impitoyables et les rebelles. Il fait sortir de la prison et de la servitude, mais les hommes, tant que l'esprit charnel règne, oppriment et emprisonnent. Mon Sauveur a dit, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et vous persécutent. » Car l'amour de Dieu ne persécute personne, mais aime tous là où il demeure. Celui qui est son frère est un meurtrier. Vous vous dites chrétien, et l'un de vous ministre de Jésus-Christ, et pourtant vous m'avez emprisonné, moi qui suis serviteur de Jésus-Christ. Les apôtres n'ont jamais emprisonné personne, mais ils ont été eux-mêmes emprisonnés. Prenez garde de parler du Christ en parole et de le nier en vie et en puissance. Ô ami, l'emprisonnement de mon corps sert à satisfaire vos volontés, mais prenez garde à céder à vos volontés, car cela vous nuira. Si l'amour de Dieu avait brisé vos cœurs, vous ne m'auriez pas emprisonné, mais mon amour est pour vous comme pour toutes mes créatures. Ceci est écrit afin que vous vous pesiez vous-même et que vous voyiez où vous en êtes. À peu près à cette époque, je fus poussé à donner les lignes suivantes, pour qu'elles circulent parmi les convaincus et les personnes au cœur tendre, afin de manifester les tromperies du monde et comment les prêtres ont trompé le peuple. À vous tous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ d'un cœur pur et sans détour, et à la génération des justes. Le Christ a toujours été haï, et ainsi les justes sont haïs à cause de lui. Considérez bien qui était ce qui les haïssait toujours. Celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est ainsi maintenant. Considérez quels furent les principaux opposants du Christ, les grands savants, les chefs du peuple, les gouvernants et les docteurs, qui professaient la loi et les prophètes et attendaient le Christ. Ils attendaient un Christ extérieurement glorieux pour soutenir leur gloire extérieure, mais le Christ parlait contre les œuvres du monde et contre les prêtres, les scribes et les pharisiens et leur profession hypocrite. Celui qui est étranger au Christ est un mercenaire, mais les serviteurs de Jésus-Christ sont des hommes libres. Les faux docteurs imposaient toujours des fardeaux au peuple et le vrai serviteur du Seigneur s'élevait contre eux. Jérémie parla contre les mercenaires et dit que c'était une chose horrible, et il dit « Que ferez-vous à la fin ?» Car le peuple et les prêtres s'étaient livrés à la convoitise. Paul parla contre ceux qui tiraient profit du peuple et exhorta les saints à se détourner de ceux qui étaient avides et orgueilleux, de ceux qui aimaient les plaisirs plus que Dieu, de ceux qui avaient une apparence de piété, mais en niaient la puissance. Car de ce nombre, dit-il, sont ceux qui s'insinuent dans les maisons et captives de pauvres femmes légères, toujours en train d'apprendre et jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité, des hommes à l'esprit corrompu, réprouvés en ce qui concerne la foi. Et comme Jannès et Jambrès résistèrent à Moïse, ceux-ci résistent aussi à la vérité, mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera manifeste à tous les hommes. Moïse rejeta les honneurs et les plaisirs dont il aurait pu jouir. L'apôtre, en son temps, vit cette corruption s'introduire, qui maintenant s'est répandue sur le monde, avoir une apparence de piété, mais en nier la puissance. Demandez à n'importe lequel de vos docteurs si vous pouvez jamais vaincre vos corruptions ou vos péchés. Aucun de n'y croit, mais tant que l'homme est ici, il doit, disent-ils, porter avec lui le corps du péché, ainsi l'orgueil est entretenu, ainsi que cet honneur et cette maîtrise que le Christ a refusé, et toute injustice, et pourtant des multitudes de docteurs, des tas de docteurs, la coupe d'or pleine d'abominations. Paul ne prêchait pas pour un salaire, mais travaillait de ses mains, afin d'être un exemple pour tous ceux qui le suivent. Ô peuple, voyez qui suit Paul. Le prophète Jérémie disait, « Les prophètes prophétisent faussement, et les prêtres dominent par leurs moyens, mais maintenant les prêtres dominent au moyen des moyens, salaires qu'ils reçoivent du peuple, ôtez-leur ces moyens, et ils ne domineront plus sur vous. » Ils sont de ceux dont l'apôtre dit qu'ils « se sont immiscés dans des choses qu'ils n'ont jamais vues, enflés d'un vain orgueil par un esprit charnel, et comme l'Écriture le déclare de certains d'autrefois, et ils suivent la voie de Caïn, qui était un meurtrier, et la voie de Balaam, qui convoitait le salaire de l'injustice. » Le prophète Michée aussi s'écria contre les juges qui jugeaient pour une récompense, et les prêtres qui enseignaient pour un salaire, et les prophètes qui prophétisaient pour de l'argent, tout en s'appuyant sur le Seigneur, disant « Le Seigneur n'est-il pas au milieu de nous ? Les présents aveuglent les yeux des sages. Le don de Dieu n'a jamais été acheté avec de l'argent. » Tous les saints serviteurs de Dieu se sont écriés contre la tromperie, et là où le Seigneur a manifesté son amour, ils la prennent en dégoût, ainsi que la nature qui la soutient. De nouveau, une préoccupation s'empara de moi d'écrire au magistrat de Derby. « Ami, je vous prie de considérer à temps qui vous emprisonnez, car le magistrat est établi en autorité pour la punition des malfaiteurs et pour la louange de ceux qui font le bien. Mais lorsque le Seigneur envoie ses messagers pour vous avertir des malheurs qui viendront sur vous, à moins que vous ne vous repentiez, vous les persécutez, vous les mettez en prison, et vous dites « Nous avons une loi, et selon notre loi nous pouvons le faire ». Car vous vous justifiez en effet devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Il ne sera pas adoré par vos formes, vos professions et vos apparences de religion. Considérez donc, vous qui parlez de Dieu, comment vous lui êtes soumis, car ce sont ses enfants ceux qui font sa volonté. Que demande le Seigneur de vous, sinon de pratiquer la justice, d'aimer et de montrer la miséricorde, de marcher humblement avec lui, et d'aider les veuves et les orphelins à obtenir leurs droits, mais au lieu de cela, vous opprimez les pauvres. Vos juges ne jugent-ils pas pour des récompenses, et vos prêtres n'enseignent-ils pas pour un salaire? Le temps vient où celui qui voit toutes choses découvrira tous vos secrets. Sachez-le assurément, le Seigneur délivrera ses serviteurs de vos mains, et il récompensera toutes vos pratiques injustes envers son peuple. Je vous prie de considérer ces choses, sondez les Écritures et voyez si jamais aucun du peuple de Dieu a emprisonné quelqu'un pour la religion. Eux-mêmes ont été emprisonnés. Je vous prie de considérer qu'il est écrit, « Quand l'Église se réunit, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous entendent, apprennent et soient consolés, puis, si quelque chose est révélé à celui qui est assis à côté, que le premier se taise. » Ainsi cela se passait dans la véritable Église, et ainsi cela devrait être maintenant, mais il n'en est pas ainsi dans vos assemblées, celui qui enseigne pour un salaire peut parler, et nul ne peut le contredire. Considérez encore la liberté qui fut accordée aux apôtres, même parmi les Juifs incrédules, lorsque, après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur dirent « Hommes, frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, dites-la. Je vous prie de considérer dans le recueillement et de ne pas lutter contre le Seigneur, car il est plus fort que vous. Quoi que vous reteniez son peuple immobile pour un temps, pourtant, quand il viendra, il reconnaîtra ceux qui sont à lui, car sa venue est comme le feu du fondeur et comme la potasse du foulon. Alors la pierre que vous, bâtisseurs, rejetez sera la pierre de tête de l'angle. Ô amis, prenez ces choses à cœur, qu'elles ne vous paraissent pas légères. Je vous ai écrit dans l'amour pour vous rappeler les lois de Dieu et vos propres âmes, et pour agir comme les saints hommes de Dieu ont agi. Grande fut l'épreuve et le labeur en esprit que j'endurai durant mon emprisonnement ici, à cause de la méchanceté qui était dans cette ville, car bien que certains y aient été convaincus, la plupart étaient un peuple endurci. Je vis la visitation de l'amour de Dieu s'éloigner d'eux. Je les pleurai, et il me vint de donner les lignes suivantes, comme une lamentation sur eux, comme les eaux s'en vont quand les vannes sont levées, ainsi la visitation de l'amour de Dieu s'éloigne de vous, ô Derby. Regardez donc où vous en êtes, et sur quel fondement vous reposez, et considérez, avant d'être entièrement abandonné. Le Seigneur m'a ému deux fois avant que je ne vienne crier contre les tromperies et les vanités qui sont en vous, et avertir tous de regarder au Seigneur, et non à l'homme. Le malheur est contre la couronne de l'orgueil, contre l'ivrognerie et les plaisirs vains, et contre ceux qui font profession de religion en parole, mais qui sont hautains et arrogants d'esprit, et vivent dans l'oppression et l'envie. Ô Derby, votre profession et votre prédication empestent devant le Seigneur. Vous professez un sabbat en parole, et vous vous réunissez, vous vêtant d'habits précieux, et vous entretenez l'orgueil. Vos femmes vont le cou tendu et les yeux aguicheurs, etc., ce contre quoi le vrai prophète d'autrefois s'écria. Vos assemblées sont détestables et une abomination pour le Seigneur, l'orgueil est dressé et on s'y prosterne, la convoitise abonde et celui qui fait le mal est honoré. Ainsi la tromperie supporte la tromperie, et pourtant il professe le Christ en parole. Ô la tromperie qui est en vous, cela me brise le cœur de voir combien Dieu est déshonoré en vous, ô Derby. Après avoir vu la visitation de l'amour de Dieu s'éloigner de ce lieu, je sus que mon emprisonnement ici ne durerait pas longtemps. Mais je vis que, lorsque le Seigneur me ferait sortir, ce serait comme lâcher un lion hors de sa tanière parmi les bêtes sauvages de la forêt. Car toutes les professions se tenaient dans un esprit et une nature bestiale, plaidant pour le péché, et pour le corps du péché et l'imperfection tant qu'ils vivaient. Tous ruaient, hurlaient, rugissaient, s'emportaient et couraient contre la vie et l'esprit qui ont produit les Écritures, tout en les professant en parole, comme il paraîtra par la suite. Un grand jugement s'abattit sur la ville, et les magistrats étaient mal allés à mon sujet, et ne pouvaient s'accorder sur ce qu'il fallait faire de moi. Un groupe voulait m'envoyer au Parlement, un autre voulait me bannir en Irlande. Au début, ils m'appelèrent imposteur, séducteur et blasphémateur. Ensuite, lorsque Dieu eut envoyé ses fléaux sur eux, ils me qualifièrent d'homme honnête et vertueux. Mais leur bon rapport et leur mauvais rapport ne m'étaient rien, car l'un ne m'élevait pas, ni l'autre ne m'abaissait, loué soit le Seigneur. Enfin, ils furent amenés à me faire sortir de prison, vers le commencement de l'hiver de l'année 1651, après que j'eus été prisonnier à Derby presque un an, 6 mois à la maison de correction, et le reste du temps à la prison commune. Étant en liberté, je poursuivis, comme auparavant, l'œuvre du Seigneur, traversant le pays vers le Leicestershire, tenant des réunions au passage, et l'Esprit et la puissance du Seigneur m'accompagnaient. Ensuite j'allai près de Burton-upontre, où certains furent convaincus, et à Buchel-Ouse, où j'eus une réunion. Je gagnai la campagne, où se trouvaient des gens bien disposés, mais un professant méchant et violent avait l'intention de me faire du mal, mais le Seigneur l'en empêcha, béni soit le Seigneur. Alors que je marchais avec plusieurs amis, je levai la tête et vis 3 flèches de maison à clocher, et elles en voulaient à ma vie. Je leur demandai quel était cet endroit, ils dirent Lichfield. Aussitôt la parole du Seigneur me vint, que je devais m'y rendre. Étant arrivés à la maison où nous allions, je souhaitai que les amis entrent dans la maison, ne leur disant rien de l'endroit où je devais aller. Dès qu'ils furent partis, je m'éclipsai et passai, guidé par mon regard, par-dessus haies et fossés, jusqu'à ce que je fusse à moins d'un mille de Lichfield. Là, dans un grand champ, des bergers gardaient leurs brebis. Alors le Seigneur me commanda d'ôter mes chaussures. Je demeurai immobile, car c'était l'hiver, et la parole du Seigneur était comme un feu en moi. J'ôtai donc mes chaussures et les laissai aux bergers, et les pauvres bergers tremblaient et étaient étonnés. Puis je marchai encore environ 1 mille, et dès que je fus dans la ville, la parole du Seigneur me vint de nouveau, disant « Crie, malheur à la ville sanglante de Lichfield !» Je montai et descendis les rues en criant d'une voix forte « Malheur à la ville sanglante de Lichfield !» C'était jour de marché, j'allai sur la place du marché et j'en fis le tour en divers endroits, m'arrêtant pour crier comme auparavant « Malheur à la ville sanglante de Lichfield !» et personne ne posa la main sur moi. Tandis que je criais ainsi dans les rues, il me semblait voir un canal de sang couler le long des rues, et la place du marché paraissait comme une mare de sang. Quand j'eus déclaré ce qui pesait sur moi, et que je me sentis libre, je sortis de la ville en paix, et retournant vers les bergers, je leur donnai un peu d'argent, et repris mes chaussures. Mais le feu du Seigneur était tellement dans mes pieds, et sur tout mon corps, que je ne me souciais pas de remettre mes chaussures, et j'hésitais à le faire ou non, jusqu'à ce que je sente la liberté du Seigneur de le faire. Alors, après m'être lavé les pieds, je remis mes chaussures. Après cela, une profonde réflexion me vint, sur la raison pour laquelle j'avais été envoyé crier contre cette ville et l'appeler la ville sanglante, car bien que le Parlement ait eu le gouvernement à une époque, et le roi à une autre, et que beaucoup de sang ait été versé dans la ville durant les guerres entre eux, ce n'était pas plus de sang qu'il n'en avait été versé en bien d'autres lieux. Mais plus tard, je compris qu'au temps de l'empereur Dioclétien, 1000 chrétiens furent martyrisés à Lichfield. Ainsi je devais aller, sans chaussures, à travers le canal de leur sang et jusque dans la mare de leur sang sur la place du marché, afin de relever le mémorial du sang de ces martyrs, versés plus de 1000 ans auparavant et restés froids dans leurs rues. Le sentiment de ce sang était donc sur moi, et j'obéis à la parole du Seigneur. D'anciens documents témoignent combien de chrétiens bretons y souffrirent. Je pourrais écrire beaucoup sur le sentiment que j'eus du sang des martyrs, qui a été versé dans cette nation pour le nom du Christ, tant sous les 10 persécutions que depuis. Mais je le laisse au Seigneur et à son livre, selon lequel tous seront jugés, car son livre est un registre très certain, et son esprit un véritable enregistreur. Ensuite je parcourus les pays en tous sens, tenant des réunions parmi des gens bien disposés en de nombreux lieux, mais mes parents s'offensèrent de moi. Au bout de quelque temps, je retournai dans le Nottinghamshire, à Mansfield, puis dans le Derbyshire visitant les amis. Puis, passant dans le Yorkshire, je prêchai la repentance à Doncaster et dans plusieurs autres endroits. Et j'arrivai à Balby, où Richard Farnsworth et plusieurs autres furent convaincus. Ainsi, voyageant par plusieurs lieux, prêchant la repentance et la parole de vie au peuple, j'arrivai dans les environs de Wakefield, où vivait James Naylor, qui, avec Thomas Goodyear, vint à moi. Tous deux furent convaincus et reçurent la vérité. William Dewsbury aussi et sa femme, avec beaucoup d'autres, vinrent à moi. Ils furent convaincus et reçurent la vérité. De là je passai vers chez le capitaine Purslow par Selby, et je visitai John Leake, qui était venu me voir dans la prison de Derby, et avait été convaincu. J'avais un cheval, mais j'étais content de m'en défaire, ne sachant qu'en faire, car j'étais poussé à aller dans beaucoup de grandes maisons, pour admonester et exhorter les gens à se tourner vers le Seigneur. Le Seigneur me poussa à aller à la maison à clocher de Beverly, qui était un lieu de haute profession. Comme j'étais très mouillé par la pluie, j'allai d'abord dans une auberge. Dès que j'arrivai à la porte, une jeune femme de la maison dit, « Quoi, c'est vous entrer, comme si elle m'avait connu auparavant, car la puissance du Seigneur avait fléchi leur cœur. Je me restaurai donc et je me couchai. Le matin, mes vêtements étant encore mouillés, je me préparai, et après avoir payé ce que je devais, je montai à la maison à clocher, où un homme prêchait. Quand il eut fini, je fus poussé à lui parler et à parler au peuple dans la puissante puissance de Dieu, et à les tourner vers leur maître, Christ Jésus. La puissance du Seigneur était si forte qu'elle jeta une grande frayeur parmi le peuple. Le maire vint et me dit quelques mots, mais nul n'avait pouvoir de se mêler de moi. Je sortis donc de la ville, et l'après-midi j'allai à une autre maison à clocher, à environ 2 miles. Quand le prêtre eut fini, je fus poussé à lui parler et à parler au peuple assez longuement, leur montrant le chemin de la vie et de la vérité, et le fondement de l'élection et de la réprobation. Le prêtre dit qu'il n'était qu'un enfant et qu'il ne pouvait discuter avec moi. Je lui dis que je n'étais pas venu pour discuter, mais pour leur présenter la parole de vie et de vérité, afin qu'ils connaissent tous l'unique semence à laquelle la promesse de Dieu était destinée, tant dans l'homme que dans la femme. Ici, le peuple était très aimant et aurait voulu que je revienne un jour de semaine prêcher parmi eux, mais je les dirigeai vers leur maître, Christ Jésus, et le lendemain j'allai à Crancic, chez le capitaine Purslow, qui m'accompagna chez le juge Rossum. Le juge Rossum était un homme assez sensible et avait quelque expérience des opérations de Dieu dans son cœur. Après quelque entretien avec lui des choses de Dieu, il me mena dans son cabinet, là assis ensemble, il me dit qu'il connaissait ce principe depuis 10 ans, et qu'il se réjouissait que le Seigneur envoyât maintenant ses serviteurs le publier au peuple. Après un moment, un prêtre vint lui rendre visite, avec qui j'eus un entretien sur la vérité. Il fut vite réduit au silence, car ce n'était qu'un présomptueux bavard, ne possédant pas ce dont il parlait. Pendant que j'étais là, une grande dame de Beverly vint chez le juge Rossum pour quelque affaire. Dans l'entretien, elle lui dit, le dernier jour de sabbat, comme elle l'appelait, un ange ou esprit est entré dans l'église de Beverly et a dit les choses merveilleuses de Dieu, à l'étonnement de tous ceux qui s'y trouvaient, et quand il eut fini, il s'en alla, et ils ne surent d'où il venait ni où il allait, mais il étonna tous, prêtres, professants et magistrats. Le juge Rossum me rapporta cela ensuite, et alors je lui rendis compte que ce jour-là j'avais été à la maison à clocher de Beverly, et que j'avais déclaré la vérité aux prêtres et au peuple qui s'y trouvaient. Dans la campagne alentour se trouvaient quelques prêtres et docteurs renommés que le juge Rossum connaissait. Il aurait volontiers souhaité qu'ils parlent avec moi et offrit de les faire venir sous prétexte d'une affaire qu'il avait avec eux, mais je le priai de ne pas le faire. Quand le premier jour de la semaine arriva, le juge Rossum sortit avec moi dans les champs, et le capitaine Purslow nous rejoignant, le juge Rossum nous quitta et rentra chez lui, mais le capitaine Purslow alla avec moi à la maison à clocher. Quand le prêtre eut fini, je parlai aux prêtres et au peuple, je leur déclarai la parole de vie et de vérité, et les dirigeai vers l'endroit où ils pouvaient trouver leur maître, le Seigneur Jésus-Christ. Certains furent convaincus, reçurent la vérité, y demeurent fermes, et ont jusqu'à ce jour une belle réunion. L'après-midi, j'allai à une autre maison à clocher, à environ 3 miles, où un grand prêtre, appelé docteur, prêchait, l'un de ceux que le juge Rossum voulait que j'aille voir. J'entrai dans la maison à clocher et j'y restai jusqu'à ce que le prêtre eut terminé. Les paroles qu'il prit pour texte étaient celles-ci. « Oh ! Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger, oui, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans prix. » Alors je fus poussé par le Seigneur Dieu à lui dire, « Descends, imposteur, tu invites les gens à venir librement et à prendre librement de l'eau de la vie, et pourtant tu leur prends 300 livres par an pour leur prêcher les Écritures, ne devrais-tu pas rougir de honte ? Le prophète Ésaïe et le Christ ont-ils fait ainsi, eux qui ont dit ces paroles et les ont données gratuitement ? Le Christ n'a-t-il pas dit à ses ministres, qu'il envoya prêcher, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Le prêtre, comme un homme confus, se hâta de partir. Après qu'il eut quitté son troupeau, j'eus tout le temps que je voulus pour parler au peuple. Je les dirigeai des ténèbres à la lumière, et vers la grâce de Dieu qui les instruirait et leur apporterait le salut, vers l'Esprit de Dieu dans leurs parties intérieures, qui serait pour eux un maître gratuit. M'étant acquitté de ma tâche parmi ce peuple, je revins ce soir-là chez le juge Rossum, qui, lorsque j'entrai, me prit dans ses bras et dit que sa maison était ma maison, tant il se réjouissait de l'œuvre du Seigneur et de ce que sa puissance se révélait. Puis il me dit pourquoi il n'était pas allé avec moi à la maison à clocher le matin, et quels raisonnements il avait eus en lui-même à ce sujet, car il pensait que s'il y était allé avec moi, les officiers m'auraient conduit chez lui, et alors il n'aurait pas su que faire. Il dit qu'il était content que le capitaine Purslow y fût allé avec moi, et pourtant ni l'un ni l'autre n'était vêtu, ni n'avait de rabat autour du cou. C'était alors chose étrange de voir un homme entrer dans une maison à clocher sans rabat. Cependant le capitaine Purslow entra avec moi sans son rabat, la puissance et la vérité du Seigneur l'ayant tellement touché qu'il n'y prit pas garde. De là je continuai, et j'arrivai la nuit dans une auberge où se trouvait une troupe de gens grossiers. Je demandai à la femme de la maison de m'apporter quelque nourriture si elle en avait, mais parce que je lui disais « zi » et « zao », elle me regarda étrangement. Je lui demandai si elle avait du lait, elle dit non. Je sentis qu'elle mentait, et voulant l'éprouver davantage, je lui demandai si elle avait de la crème, elle n'y a en avoir. Une baratte se trouvait dans la pièce, et un petit garçon, qui jouait, y mit les mains, la renversa et répandit toute la crème sur le sol devant mes yeux. Ainsi la femme fut montrée menteuse. Elle fut stupéfaite, se signa, prit l'enfant et le fouetta cruellement, mais je la repris pour son mensonge et sa tromperie. Après que le Seigneur eut ainsi mis à découvert sa tromperie et sa perversité, je sortis de la maison et m'en allai jusqu'à une meule de foin, et je passai la nuit dans la meule, sous la pluie et la neige, étant à 3 jours seulement du temps appelé Noël. Le lendemain j'arrivai à York, où il y avait plusieurs personnes très sensibles. Le premier jour de la semaine suivante, j'eus ordre du Seigneur d'aller parler au prêtre Bowl et à ses auditeurs dans leur grande cathédrale. J'y allai donc. Quand le prêtre eut fini, je leur dis que j'avais quelque chose du Seigneur Dieu à dire aux prêtres et au peuple. « Alors dis-le vite, dit un professant car il gelait et il neigeait, et le temps était très froid. Alors je leur dis que voici la parole du Seigneur Dieu pour eux, qu'ils vivaient en parole, mais que Dieu Tout-Puissant cherchait des fruits parmi eux. À peine les mots furent-ils sortis de ma bouche qu'ils me poussèrent dehors et me jetèrent en bas des marches. Mais je me relevai sans mal et allai à mon logis, et plusieurs y furent convaincus. Car les gémissements même qui s'élevaient du poids et de l'oppression qui reposait sur l'Esprit de Dieu en moi, ouvraient les gens, les frappaient et les amenaient à confesser que les gémissements qui sortaient à travers moi les atteignaient, car ma vie était chargée de leur profession sans possession, et de leurs paroles sans fruit. Après avoir accompli mon service présent à York, et que plusieurs y furent convaincus, reçurent la vérité de Dieu et furent tournés vers son enseignement, je sortis de York et regardai vers Cleveland, et je vis qu'il y avait là un peuple qui avait goûté la puissance de Dieu. Je vis qu'il y avait une semence dans ce pays, et que Dieu y avait un peuple humble. En poursuivant ma route cette nuit-là, un papiste me rejoignit et me parla de sa religion et de leur réunion, et je le laissai dire tout ce qu'il avait en tête. Cette nuit-là, je demeurai dans une taverne. Le lendemain matin, je fus poussé à dire la parole du Seigneur à ce papiste. J'allai donc chez lui, et m'élevai contre toute leur voix superstitieuse, et je lui dis que Dieu était venu instruire lui-même son peuple. Cela le mit dans une telle rage qu'il ne put supporter de rester dans sa propre maison. Le lendemain je vins à Bobby, où un prêtre et plusieurs personnes bien disposées s'étaient réunies. Beaucoup de gens furent convaincus et sont demeurés fidèles depuis. Il y a une grande réunion d'amis dans cette ville. Le prêtre aussi fut contraint de reconnaître la vérité, bien qu'il n'y entrât pas. Le jour suivant, j'allai à Cleveland parmi ce peuple qui avait goûté la puissance de Dieu. Ils avaient autrefois eu de grandes réunions, mais alors ils étaient dispersés en morceaux, et leur chef s'était tourné vers les rentés. Je leur dis qu'après avoir eu de telles réunions, ils n'avaient pas attendu Dieu pour sentir sa puissance rassembler leurs esprits intérieurement, afin de sentir sa présence et sa puissance parmi eux dans leurs réunions, de s'asseoir là-dedans et de l'attendre, car ils s'étaient eux-mêmes asséchés en parlant, ils avaient dépensé leur part, et ne vivant pas dans ce dont ils parlaient, ils étaient maintenant devenus secs. Ils avaient encore une sorte de réunion, mais ils prenaient du tabac et buvaient de la bière dans leurs réunions, et étaient devenus légers et débridés. Mais mon message pour eux, de la part du Seigneur, était qu'ils se réunissent tous de nouveau, et attendent de sentir la puissance et l'Esprit du Seigneur en eux-mêmes, pour les rassembler à Christ, afin qu'ils soient instruits par lui, lui qui dit « Apprenez de moi ». Car lorsqu'ils avaient déclaré ce que le Seigneur leur avait ouvert, alors le peuple devait le recevoir, et tant ceux qui parlaient que ceux qui écoutaient devaient vivre eux-mêmes dans cela. Mais quand ceux-ci n'eurent plus rien à déclarer et qu'ils allèrent chercher des formes sans vie, cela les rendit secs et stériles, eux et le peuple aussi, et de là vint toute leur perte, car le Seigneur renouvelle ses miséricordes et sa force à ceux qui l'attendent. Les chefs en vinrent à rien. Mais la plupart du peuple fut convaincu, reçut la vérité éternelle de Dieu, et continue jusqu'à ce jour une réunion, s'asseyant sous l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, leur Sauveur. Le premier jour de la semaine suivante, la parole du Seigneur me vint d'aller à la maison à clocher de cet endroit, ce que je fis. Quand le prêtre eut fini, je lui dis la vérité, à lui et au peuple, et les dirigeai vers leur maître intérieur, Christ Jésus, leur maître gratuit qui les avait rachetés. Le prêtre vint vers moi, et j'eus un bref entretien avec lui, mais bientôt il fut arrêté et réduit au silence. Puis m'étant acquitté envers ce lieu, je m'en allai, ayant eu plusieurs réunions parmi ce peuple. Bien que la neige fût très profonde, je continuai à voyager, et j'arrivai dans une ville de marché, où je rencontrai beaucoup de professants, avec lesquels j'eus de nombreux raisonnements. Je leur posai beaucoup de questions auxquelles ils ne purent répondre, disant qu'on ne leur avait jamais posé de questions aussi profondes de toute leur vie. De là j'allai à Stas, où je rencontrai beaucoup de professants et quelques rentés. J'eus parmi eux de grandes réunions, et il y eut là une grande conviction. Beaucoup reçurent la vérité, parmi eux l'un était un homme de 100 ans, un autre était un chef constable, un troisième était un prêtre nommé Philippe Scaff. Le Seigneur, par son esprit libre, fit ensuite de lui un ministre libre de son libre évangile. Le prêtre de cette ville était un homme hautain, qui opprimait fortement le peuple pour ses paiements de dîmes. S'ils allaient pêcher à plusieurs lieues de là, il exigeait la dîme sur ce qu'ils gagnaient de leurs poissons, bien qu'il les ait pris à grande distance et qu'il les porte jusqu'à Yarmouth pour les vendre. Je fus poussé à aller à la maison à clocher pour y déclarer la vérité et dévoiler le prêtre. Quand je lui parlai et l'accusai d'opprimer le peuple, il s'enfuit. Les principaux de la paroisse étaient très légers et vains. Après leur avoir dit la parole de vie, je me détournai de parce qu'ils ne la reçurent pas, et je les quittai. Mais la parole du Seigneur, que j'avais déclarée parmi eux, resta avec certains, si bien que le soir, quelques-uns des chefs de la paroisse vinrent à moi. La plupart furent convaincus et satisfaits, et reconnurent la vérité. Ainsi la vérité commença à se répandre dans ce pays, et nous eûmes de grandes réunions, ce qui mit le prêtre en rage et excita les rentés, lesquels me firent dire qu'ils disputeraient avec moi, à la fois le prêtre oppresseur et le chef des rentés. Un jour fut fixé, et le renté vint avec sa compagnie. Un autre prêtre, un Écossais, vint, mais non le prêtre oppresseur de Stas. Philippe Scaff était avec moi, et un grand nombre de gens se rassemblèrent. Lorsque nous fûmes installés, T. Buchel, le renté, me dit qu'il avait une vision de moi, j'étais assis dans une grande chaise, et il était venu, avait ôté son chapeau et s'était incliné jusqu'à terre devant moi, ce qu'il fit. Et il prononça beaucoup d'autres paroles flatteuses. Je lui dis que c'était sa propre figure, et je dis « Repens-toi, bête ». Il dit que c'était de la jalousie en moi de dire cela. Je lui demandai quel était le fondement de la jalousie, et comment elle en vient à être engendrée en l'homme, et la nature d'une bête, qu'est-ce qu'il a fait, et comment elle est engendrée en l'homme. Car je le voyais directement dans cette nature de la bête, et je demandai donc comment cette nature avait pu être engendrée en lui. Je lui dis qu'il devait me rendre compte des choses faites dans le corps, avant que nous n'en venions à discourir de choses faites hors du corps. Ainsi je lui fermai la bouche, et tous ses compagnons rentés furent réduits au silence, car il en était le chef. Alors j'appelai le prêtre oppresseur, mais seul le prêtre écossais vint, dont la bouche fut bientôt fermée par très peu de mots, puisqu'il était en dehors de la vie de ce qu'il professait. Alors j'eus une bonne occasion auprès du peuple. Je mis à nu les rentés, les rangeant avec les anciens rentés de Sodome. Je montrai que les prêtres étaient de la même trempe que leurs compagnons mercenaires, les faux prophètes d'autrefois, et les prêtres qui alors dominaient le peuple par leurs moyens, recherchant leur gain de leur quartier, pratiquant la divination pour de l'argent, et enseignant pour un gain honteux. Je fis passer tous les prophètes, le Christ et les apôtres au-dessus des têtes des prêtres, montrant comment les prophètes, le Christ et les apôtres les avaient depuis longtemps découverts par leurs marques et leurs fruits. Puis je dirigeai le peuple vers le Maître intérieur, Christ Jésus leur Sauveur, et je prêchai Christ dans les cœurs de son peuple, lorsque toutes ces montagnes furent abaissées. Le peuple fut tout à fait tranquille, et la bouche des opposants fut fermée, car bien qu'ils bouillonnassent intérieurement, la puissance divine les tenait si fortement enchaînés qu'ils ne pouvaient éclater au dehors. Après la réunion, ce prêtre écossais me pria de marcher avec lui au sommet des falaises. Alors j'appelai un beau-frère à lui, qui était en quelque mesure convaincu, et je le priai de venir avec moi, lui disant que je désirais avoir quelqu'un près de moi pour entendre ce que nous dirions, de peur que le prêtre, quand je serais parti, ne rapporte quelque chose qu'il prétendrait que j'avais dit, mais que je n'avais pas dit. Nous y allâmes ensemble, le prêtre me posant beaucoup de questions sur la lumière et sur l'âme, à toutes je lui répondis pleinement. Lorsqu'il eut fini de questionner, nous nous séparâmes, il s'en alla et rencontrant Philippe Scaff, il brisa son bâton contre le sol dans sa fureur, et dit que s'il me rencontrait jamais encore, il aurait ma vie, ou j'aurais la sienne, ajoutant qu'il accepterait d'avoir la tête tranchée si je n'étais pas détruit dans le moi. Par là, les amis soupçonnèrent que son intention, en me demandant de marcher seul avec lui, était soit de m'avoir poussé du haut de la falaise, soit de m'avoir poignardé, et que, frustré en cela, il en devint furieux. Car auparavant, lorsque j'avais été chez lui, j'avais vu en lui une nature de chien, et je fus poussé à lui dire qu'il était un chien, comme ses actions le confirmèrent. Mais je ne pris garde, ni à ses prophéties, ni à ses menaces, car je craignais Dieu Tout-Puissant. Après quelques années, ce même prêtre écossais et sa femme en vinrent à être convaincus de la vérité, et environ 12 ans après j'étais chez eux. Un autre prêtre vint à une réunion où j'étais, un homme en réputation au-dessus de tous les prêtres du pays. Comme je déclarais que l'Évangile est la puissance de Dieu, et comment il met en lumière la vie et l'immortalité chez les hommes, et tourne les gens des ténèbres à la lumière, ce prêtre exalté dit que l'Évangile était mortel. Je lui dis que le vrai ministre avait dit que l'Évangile était la puissance de Dieu, et ferait-il la puissance Dieu mortelle? Sur quoi l'autre prêtre, Philippe Scaff, qui était convaincu et avait senti en lui-même la puissance immortelle de Dieu, le reprit et le réprimanda. Il s'éleva ainsi une grande dispute entre eux, le prêtre convaincu soutenant que l'Évangile était immortel, et l'autre soutenant qu'il était mortel. Mais la puissance du Seigneur fut trop forte pour cet opposant, et lui ferma la bouche, et beaucoup furent convaincus, voyant les ténèbres du prêtre opposant, et la lumière qui était dans le prêtre convaincu. Un autre prêtre envoya demander à disputer avec moi, et des amis vinrent avec moi à la maison où il était. Mais lorsqu'il comprit que nous venions, il se glissa hors de la maison et se cacha sous une haie. Les gens allèrent le trouver, mais ne purent le faire venir à nous. Alors j'allai à une maison à clocher voisine, où le prêtre et le peuple étaient dans une grande rage. Ce prêtre avait menacé les amis de ce qu'il ferait, mais quand je vins, il s'enfuit, car la puissance du Seigneur vint sur lui et sur eux. Oui, la puissance éternelle du Seigneur était au-dessus du monde, et atteignait les cœurs des gens, et faisait trembler prêtres et professants. Elle ébranlait l'esprit terrestre et aérien, dans lequel ils tenaient leur profession de religion et de culte, de sorte que c'était pour eux une chose redoutable, lorsqu'on leur disait « l'homme en culotte de cuir est venu ». À l'audition de cela, les prêtres en bien des lieux s'écartaient du chemin, ils étaient tellement frappés par la crainte de la puissance éternelle de Dieu, et la peur surprenait les hypocrites. Nous passâmes à Whitby et Scarborough, où nous eûmes quelques services pour le Seigneur, de grandes réunions s'y sont établies depuis. De là je passai par les Woods jusqu'à Malton, où nous eûmes de grandes réunions, comme aussi dans les villes d'alentour. Dans une ville, un prêtre m'envoya un défi pour disputer avec moi, mais quand je vins, il ne se montra pas. J'eus une bonne occasion auprès du peuple, et la puissance du Seigneur s'empara d'eux. L'un, qui avait été un homme sauvage et ivrogne, fut tellement atteint par cette puissance qu'il vint à moi doux comme un agneau. Bien que lui et ses compagnons eussent auparavant envoyé chercher à boire pour enivrer les gens grossiers, afin qu'ils puissent nous maltraiter. Quand je vis que le prêtre ne voulait pas sortir pour me rencontrer, je fus poussé à aller à la maison à clocher, et il fut confondu, la puissance du Seigneur venant sur tous. Le premier jour suivant, vint l'une des plus hautes professantes indépendantes, une femme, qui s'était laissée gagner par un tel préjugé contre moi qu'elle disait, avant de venir, qu'elle aurait volontiers été me voir pendue. Mais venue, elle fut convaincue et demeure une amie. Je retournai encore à Malton, et il y eut là de très grandes réunions, auxquelles plusieurs autres seraient venues, mais n'osaient pas, par crainte de leurs parents, car alors on trouvait étrange de prêcher dans des maisons, et de ne pas aller à l'église, comme ils appelaient la maison à clocher, aussi me priait-on beaucoup d'aller parler dans les maisons à clocher. L'un des prêtres m'écrivit et m'invita à prêcher dans sa maison à clocher, m'appelant son frère, un autre prêtre, homme renommé, y tenait une lecture. Le Seigneur m'avait montré, tandis que j'étais dans la prison de Derby, que je parlerais dans les maisons à clocher, pour en rassembler les gens hors, et il me venait parfois une préoccupation à l'esprit au sujet des chaires où les prêtres se prélassaient. Car les maisons à clocher et les chaires étaient offensantes à mon esprit, parce que prêtres et peuples les appelaient la maison de Dieu, et les idolâtraient, pensant que Dieu habitait dans la maison extérieure. Au lieu de cela, ils auraient dû chercher Dieu et le Christ demeurer dans leur cœur, et leur corps devenir les temples de Dieu, car l'apôtre a dit « Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains, mais, à cause de l'idolâtrie du peuple envers ces lieux, il était tenu pour une chose odieuse de s'élever contre eux. » Quand j'entrai dans la maison à clocher, il n'y avait pas plus de 11 personnes présentes, et le prêtre leur prêchait. Mais lorsque la ville sut que j'y étais, elle se remplit bientôt de monde. Quand le prêtre eut fini, il envoya l'autre prêtre, celui qui m'avait invité, pour me faire monter en chaire, mais je lui fis dire que je n'avais pas besoin de monter en chaire. Il m'envoya de nouveau, me priant d'y monter, car, disait-il, c'était un meilleur endroit, et là je serais vu du peuple. Je lui fis dire encore que l'on pouvait me voir et m'entendre assez bien là où j'étais, et que je n'étais pas venu pour soutenir de tels lieux, ni leur entretien ni leur commerce. Sur quoi ils commencèrent à se fâcher, et dirent, « Ces faux prophètes devaient venir dans les derniers temps. » Le fait qu'ils le disent attrista beaucoup de gens, et certains commencèrent à murmurer. Alors je me levai, et priai tous d'être tranquilles, et montant sur un siège élevé, je leur déclarai les marques des faux prophètes, montrant qu'ils étaient déjà venus, et je mis les vrais prophètes, le Christ et ses apôtres au-dessus d'eux, et je manifestai que ceux-ci s'écartaient des traces des vrais prophètes, du Christ et de ses apôtres. Je dirigeai le peuple vers son maître intérieur, Christ Jésus, qui les tournerait des ténèbres à la lumière. Et après leur avoir ouvert plusieurs passages de l'Écriture, je les dirigeai vers l'Esprit de Dieu en eux-mêmes, par lequel ils pourraient venir à lui, et par lequel ils pourraient aussi discerner qui étaient les faux prophètes. Ainsi, après avoir eu une grande occasion parmi eux, je partis en paix. Après quelque temps, j'arrivai à Pickering, où les juges tenaient leur session dans l'église, le juge Robinson en étant le président. J'eus au même moment une réunion dans l'école, et quantité de prêtres et de gens se disant chrétiens y vinrent, posant des questions auxquelles il fut répondu à leur satisfaction. Comme c'était le temps des sessions, quatre chefs de la constabulaire et beaucoup d'autres personnes furent convaincus ce jour-là, et l'on porta au juge Robinson la nouvelle que son prêtre avait été renversé et convaincu, lui qu'il aimait plus que tous les autres prêtres. Après la réunion, nous allâmes dans une auberge, et le prêtre du juge Robinson fut très humble et affectueux, et aurait payé mon dîner, mais je ne le permis en aucune façon. Ensuite, il m'offrit son église pour y prêcher, mais je refusai et lui dis, ainsi qu'au peuple, que j'étais venu pour les détourner de ces choses et les conduire à Christ. Le lendemain matin, j'allai, avec les quatre chefs de la constabulaire et quelques autres, rendre visite au juge Robinson, qui me rencontra à la porte de sa chambre. Je lui dis que je ne pouvais pas l'honorer de l'honneur des hommes. Il répondit qu'il ne le recherchait pas. J'entrai donc dans sa chambre et lui exposai l'état des faux prophètes et des vrais prophètes. Je plaçai les vrais prophètes, Christ et les apôtres, au-dessus des autres, et j'orientai son esprit vers Christ, son maître. Je lui expliquai les paraboles et comment se tenait l'élection et la réprobation, le rejet, à savoir que la réprobation se trouvait dans la première naissance et l'élection dans la seconde naissance. Je lui montrai aussi à qui s'adressait la promesse de Dieu et contre qui s'exerçait le jugement de Dieu. Il acquiesça à tout et fut si éclairé par la vérité que, lorsqu'un autre juge fit quelque légère opposition, il le renseigna. En nous quittant, il dit qu'il était très bien que j'exerçasse ce don que Dieu m'avait donné. Il prit les chefs de la constabulaire à part et aurait voulu leur donner de l'argent pour moi, disant qu'ils ne voulaient pas que j'eusse aucune dépense dans leur pays. Mais ils lui dirent qu'eux-mêmes ne pouvaient pas me faire accepter d'argent. Et ainsi, acceptant sa bonté, ils refusèrent son argent. De là, je passai dans la campagne, et le prêtre qui m'appelait frère, dans l'école duquel j'avais tenu la réunion à Pickering m'accompagna. Lorsque nous arrivâmes dans une ville pour manger, les cloches sonnèrent. Je demandai pourquoi elles sonnaient. On me dit, pour que je prêche dans l'église. Au bout d'un moment, je sentis des attirances en ce sens, et comme je me dirigeais vers l'église, je vis le peuple rassemblé dans la cour. Le vieux prêtre aurait voulu que j'entre dans l'église. Je dis, non, cela n'importe pas. Mais il semblait étrange au peuple que je ne veuille pas entrer dans ce qu'ils appelaient la maison de Dieu. Je me tins debout dans la cour de l'église et déclarai au peuple que je n'étais pas venu soutenir leurs temples idolâtres, ni leurs prêtres, ni leurs dîmes, ni leurs augmentations, ni les gages de leurs prêtres, ni leurs cérémonies et traditions juives et païennes, car je reniais toutes ces choses, et je leur dis que ce morceau de terre n'était pas plus saint qu'un autre. Je leur montrai que les apôtres, en entrant dans les synagogues et les temples des Juifs, que Dieu avait commandés, le faisaient pour détourner les gens de ce temple et de ces synagogues, ainsi que des offrandes, des dîmes et des prêtres cupides de ce temps-là. Que ceux qui venaient à être convaincus de la vérité, s'y convertissaient et croyaient en Jésus-Christ que les apôtres prêchaient, se réunissaient dans des maisons d'habitation, et que tous ceux qui prêchent Christ, la parole de vie, doivent prêcher gratuitement, comme le firent les apôtres et comme il l'a commandé. Ainsi, j'étais envoyé par le Seigneur Dieu du ciel et de la terre pour prêcher gratuitement et pour détourner les gens de ces temples extérieurs faits de main d'homme, où Dieu n'habite point, afin qu'ils sachent que leurs corps doivent devenir les temples Dieu et de Christ, et pour détourner les gens de toutes leurs cérémonies superstitieuses, de leurs coutumes juives et païennes, de leurs traditions et doctrines d'homme, et de tous les docteurs salariés du monde, qui prennent les dîmes et de grands gages, prêchant pour un salaire et pratiquant la divination pour de l'argent. J'exhortai le peuple à se détourner de toutes ces choses, le dirigeant vers l'Esprit et la grâce de Dieu en eux-mêmes, et vers la lumière de Jésus dans leur propre cœur, afin qu'ils puissent connaître Christ, leur maître gratuit, pour leur apporter le salut et leur ouvrir les Écritures. Ainsi le Seigneur me donna une bonne occasion de leur exposer largement ces choses. Tout fut paisible, et beaucoup furent convaincus, béni soit le Seigneur. Je passai dans une autre ville, où se tint une autre grande réunion, le vieux prêtre étant avec moi, et des gens se disant chrétiens de plusieurs sortes y vinrent. Je m'assis sur une meule de foin et ne dis rien pendant quelques heures, car je devais les affamer de paroles. Les gens se disant chrétiens ne cessaient de parler au vieux prêtre et de lui demander quand je commencerai et quand je parlerai. Il leur dit d'attendre, et il leur dit que le peuple avait attendu Christ longtemps avant qu'il ne parle. Enfin je fus poussé par le Seigneur à parler, et ils furent frappés par la puissance du Seigneur. La parole de vie les atteignit, et il y eut parmi eux une conviction générale. 1, 2, 3, 4 retours suivants.